ici Roger Malina sur Creative Disturbance. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Jacques Mandelbrot sur notre chaîne Pionnier Précurseur. Jacques a été un précurseur de beaucoup d'idées qui sont maintenant à la mode. On rigolait un peu récemment sur ça. Et dans le podcast, le dernier podcast, on a fini avec une phrase de Jacques Monod. Peut-être tu peux nous la rappeler sur les molécules.
Oui, Jacques Monod qui disait que sa pensée scientifique n'était pas verbale, mais qu'elle était imagée, musculaire, et qui disait que quand il était au plus profond de sa pensée, il lui arrivait de s'identifier à une molécule de protéine. Ce qui me paraît un peu invraisemblable, mais enfin, bon, c'est ce qu'il écrit dans...
Non, mais c'est vrai que dans l'imagination, on se crée des hypothèses.
Non, parce que dans l'art, c'est comme ça. Enfin, par exemple, les artistes, quand ils veulent représenter... Par exemple, Matisse dit... je voulais représenter un arbre, je me suis identifié à l'arbre. Les artistes s'identifient à l'objet qu'ils représentent. Mais enfin, c'est sûrement vrai d'ailleurs, oui.
En tout cas, c'est tout un terrain où, et c'est là où la réalité des choses, et là on en parlait, c'est que nos institutions cloisonnent ces sujets, hein, donc, c'est souvent très difficile de franchir ces frontières entre les pratiques artistiques et les pratiques scientifiques. Alors, dans les années 70, donc, tu es venu à Marseille. La nouvelle université venait de se créer. Tu peux peut-être expliquer le contexte.
Oui, alors, on a créé une...
Non, mais c'était 70, c'était
non,
ça
la Non, la nouvelle université s'est créée un peu avant, et puis... Après, j'ai participé à la création d'un département d'art plastique à Lumini.
En tant que physicien.
En tant que physicien, théoricien, voilà. Et dans les années 70, effectivement, le gouvernement a décidé que ce serait bon que les professeurs d'art dans les lycées aient la même formation que les professeurs des sciences ou de lettres. Et donc, il y a une agrégation d'art, etc., etc. Et donc, ils ont eu l'idée de créer des départements d'art plastique.
Dans des universités.
Dans des universités. Il y en avait 4 ou 5, je crois. Et dont le but serait de former des professeurs de dessin pour secondaire, comme on forme dans l'agrégation les professeurs de mathématiques. Et alors, on m'a demandé, le directeur de Lumini, de l'université à Lumini, m'a demandé de créer ce département. Bon, alors, je crois qu'il me l'a demandé parce qu'il savait que j'étais peintre. Et puis, en fait, c'était difficile de trouver quelqu'un qui soit peintre et une formation universitaire qui lui permet d'être professeur, de créer un département. Et à Lumini, l'idée était justement d'essayer de faire quelque chose où... Parce que Lumini était essentiellement un enseignement scientifique ouais. Et de créer quelque chose qui unisse l'art et la science.
Ouais.
Et alors donc ils ont
C'était
fait
en
appel
70.
À moi. Ils ont fait appel à moi. Et le département s'est bien développé, beaucoup. Il y a eu à un moment on a eu 400 étudiants.
Ouais.
Il y en a eu autant que d'étudiants en sciences.
Dans l'équipe enseignante, tu te rappelles du nom de certains collègues
ou... Il y avait...
C'était il y a un moment, mais...
Oui, je pourrais me souvenir des noms, mais ça...
Mais tu as toi-même enseigné des cours d'art.
Et j'ai fait un cours sur art et sciences, justement.
Oui. En 70.
En 70. Et ce qui a donné lieu d'ailleurs à un livre qui a été publié par Lévi Leblond plus tard. Mais enfin, ça a si bien réussi qu'en fait, on avait trop d'étudiants.
Oui.
Et ça a déséquilibré le département, l'université, et ils ont décidé, ils voulaient supprimer ce département d'art plastique. Alors, je fais une grève de la faim de 2 semaines
pas
avec
vrai.
des étudiants, et finalement, ils ne l'ont pas supprimé, ils l'ont transféré à Aix.
D'accord. Non, mais c'est amusant de t'écouter parce que, comme tu le sais, aujourd'hui,
Enfin, c'est en 68, tout juste après
on est en
68.
2015 maintenant. Il y a toute une activité d'intégrer les écoles d'art et de musique dans les universités. Tout le problème en ce moment, qu'on crée des doctorats d'art. C'est quoi un
Oui, ben
doctorat
c'est
d'art?
exact. Oui, c'est ça. Et oui.
Et pour, en effet, essayer de faire entrer. Et ce n'est pas du tout évident parce que les méthodes de formation ne sont pas identiques.
Oui. Non, mais enfin, aux États-Unis, quand même, on enseignait l'art dans les universités, alors qu'en France, c'était vraiment tout à
Très
fait
rare.
séparé. Il y avait les écoles d'art
Ouais.
et les universités, qui étaient
Ouais.
deux choses tout à fait différentes.
Donc, en effet, c'est amusant qu'en 2015, maintenant, cette discussion est d'actualité. Mais que des gens comme toi, quand même, ont créé les briques sur lesquelles tout ça s'est construit. Et je suppose que l'université jeune, à cette époque, avait plus de flexibilité pour créer un département d'art avec un physicien qui enseignait de
Et
l'art.
voilà.
Peut-être une chose, donc tu as dit que ton père était mathématicien, c'est
mon
ça?
père était un grand
Dans quel
mathématicien en analyse. Enfin, il a été un des créateurs du groupe Bourbaki.
Ah oui.
Oui. Enfin, c'était un des mathématiciens importants,
Oui.
pas seulement en France, mais enfin, bon.
Donc en effet, écoute, comme tu le sais, moi mon père était en études spatiales et moi aussi, donc l'influence
Voilà,
parentale est
exactement,
présente.
exactement.
Et donc, mais la peinture, c'est pas quelque chose que ton père faisait.
Si, en fait, mon
Ah
père a fait
oui.
de la peinture.
Oui.
Il a fait de la peinture pendant une année parce qu'il était, il, bon, ça c'est des, il était en Pologne. Il est né en Pologne, il est
Oui.
venu en France à l'âge de 20 ans, mais en Pologne, à un moment, il n'avait pas de droit en tant que juif, il n'avait pas le droit de faire des études
Ouais.
universitaires, etc. Pendant une année, il a fait des études d'art.
Un de mes collègues qui a un podcast sur Creative Disturbance, Robert Rubenstein, a fait une étude approfondie de la carrière de prix Nobel, de membres des académies des sciences. Et en effet, il a découvert, et ce n'est pas une surprise, que parmi les chercheurs et les ingénieurs qui ont fait bonne carrière, il y en a beaucoup qui avaient des activités artistiques aussi.
Oui.
Alors souvent c'était caché, on trouve ça dans leurs lettres et dans leurs archives. Mais en effet, et ça revient à la question qu'on discutait avant, que dans leur méthode de réflexion ou d'investigation scientifique, leur création artistique faisait un ensemble.
Oui, et puis je crois que c'est quand même une leçon de liberté. Enfin, dans la science, on a tendance à être dans certains groupes. Enfin, comment dire? Il se passe des choses à un moment en science et tout le monde doit faire à peu près le même genre de choses, alors que c'est vrai dans l'art aussi, d'ailleurs. Bon.
Non, mais écoute, on va appeler ce podcast Leçon de liberté.
Le sang de liberté.
Donc, en effet, ta remarque est correcte. C'est qu'en effet, à tout moment, dans les établissements scientifiques, on est sous des contraintes diverses et multiples de financement, de moyens, et qu'il y a certaines lignes directrices qui sont privilégiées plutôt que d'autres. Et donc, on pense toujours aux scientifiques, à quelqu'un qui explore. Mais en effet, cette liberté est souvent pas très présente.
Oui, enfin, il faut beaucoup se battre
Oui.
pour avoir une liberté. Hein.
Et pourquoi l'art entre dans cette formule?
Ah, pourquoi l'art entre dans cette formule? Ben parce que je crois qu'un artiste se confronte au réel, peut-être de façon plus directe que le scientifique. Il y a toute l'histoire de l'art. On a toute l'histoire de l'art derrière nous, etc. Mais enfin, quand même, un artiste peut quand même se libérer et avoir un contact justement plus musculaire, plus direct avec le réel et
Et le seul bémol que je mettrais à ton argument, c'est que en tant qu'astrophysicien, je sais très bien que nos sens voient très peu de la réalité des choses et que le monde est rempli de choses que nos sens n'ont aucune capacité. Et donc, je ne sais pas si c'est le scientifique ou l'artiste qui a le plus de contact avec le réel, parce que la matière noire est aussi réelle que les fourmis et les abeilles. Hein, donc, écoute, on a 1 ou 2 minutes pour un peu terminer la pensée. Donc, tu fais membre du comité de rédaction de Leonardo. Explique comment tu as rencontré mon père et quand c'était, et le réseau de gens que tu connaissais à cette époque.
Bon, alors justement, comme j'avais une des personnes qui m'a beaucoup initié à l'art, c'est Jeanne Coppel, qui était d'ailleurs une des personnes qui s'occupait des réalités
Les
nouvelles.
nouvelles à Paris, oui.
Et elle connaissait bien Al Copley, qui était lui aussi artiste et
Et scientifique.
scientifique.
Il était
Il était
biologiste.
biologiste et qui a été un des créateurs. Un des premiers membres un des créateurs de Leonardo
Oui,
avec Roger
avec
Malina,
Frank Malina,
et
avec mon père.
avec Frank Malina, effectivement. Bon, et
Donc,
elle m'a
ouais.
présenté à Leonardo, elle m'a présenté à Al Copley, et Al Copley m'a tout de suite présenté Frank Malina. Ils m'ont tout de suite. J'ai écrit un article, un premier article. Ils m'ont demandé de faire partie du comité de rédaction, du editorial board de
Donc c'était en
Leonardo.
68,
C'était en
69.
68, en 69.
Ouais.
Donc j'étais un des premiers
Membre
membres du.
fondateur.
Oui.
Mais écoute, je suis ravi d'avoir cette conversation avec toi. On pourrait parler pendant des
Eh
heures, je
bien,
crois,
merci.
mais là, on va prendre un pastis.
Voilà, très
Allez,
bien.
merci Jacques.